pointu.
Il est 11h45, c'est l'heure de l'actualité sur Radio Charladi. D'actualité géopolitique, politique, des faits divers et du sport avec Victoire, Jade, Lubin, Noé et Nathan. Bonjour. Et on commence par la situation au Soudan avec Victoire. Chers auditeurs, connaissez-vous la situation au Soudan ?
Depuis avril 2023, le Soudan est plongé dans une guerre civile extrêmement violente entre l'armée régulière, les forces armées soudanaises dirigées par le général Abdel Fattah al-Burhan et une puissance paramilitaire appelée les forces de soutien rapide dirigée par le général Hemeti. Ce conflit n'est pas seulement militaire, il a créé l'une des pires crises humanitaires du monde. Pour ce qui se passe sur le terrain, on a des combats qui continuent dans plusieurs régions, notamment à El Fasher et El Obeid, où les civils sont pris entre les forces en guerre et le manque de nourriture, d'eau et de soins médicaux. Et par conséquent, des attaques contre des civils et même des hôpitaux ont été signalées, faisant des milliers de victimes. Pour ce qui est des conséquences humaines, on a des millions de personnes qui ont fui leur maison à l'intérieur du pays, vers des pays voisins ou parfois vers d'autres continents. Certains ont peut-être entendu le témoignage bouleversant d'un jeune Soudanais installé à Coutances pour le concert de Noël de l'Orchestre d'Harmonie. Il a fui la guerre en passant par la Libye et la Méditerranée. De plus, on a la population qui fait face à la faim, la maladie et l'effondrement des services de santé. Selon l'UNICEF, les enfants et les familles sont particulièrement touchés avec des risques de malnutrition et de maladies graves.
Quelles sont les réactions internationales face à cette situation dramatique ?
Eh bien, les Nations Unies et des organisations humanitaires essayent d'apporter de l'aide, mais l'accès est difficile à cause des combats et des blocages. L'ONU a alerté que la situation pourrait encore s'aggraver si aucune trêve durable n'était établie.
Des offensives ont lieu actuellement ?
Oui, tout à fait, autour de la ville d'El Fasher, dans le Darfour, par les forces de soutien rapide. Mais la brutalité des FSR fait craindre notamment un ciblage ethnique de civils avec des exécutions de masse, comme dans une maternité faisant 460 morts. La prise d'El Fasher a accentué la crainte de crimes de guerre. De plus, la ville d'El Obeid est désormais un front actif où la guerre continue et où la population se trouve en situation humanitaire dramatique.
Les combats doivent entraîner une crise humanitaire dramatique.
Oui, après 3 ans de guerre, les conséquences sont immenses avec des millions de personnes déplacées, environ 14 millions, à l'intérieur du pays et à l'étranger. Une pénurie alimentaire très grave, nous parlons ici de famine. Nous avons des services de santé effondrés, un accès aux soins inexistant dans plusieurs zones de combat et des attaques civiles dans les hôpitaux. L'ONU parle même de scènes de crimes de masse.
Où en sont les tentatives de paix ?
Des tentatives de cessez-le-feu et de médiation par la communauté internationale ont bien eu lieu, mais ont finalement échoué ou n'ont été que temporaires, car les deux camps continuent de se battre pour le contrôle de territoire.
Merci Victoire de nous avoir rappelé que ce conflit est toujours actif avec de graves conséquences humanitaires. Passons maintenant à l'actualité politique avec Jade.
Après le Soudan, nous partons pour l'Iran avec Jade qui évoque la répression meurtrière menée par le régime après des semaines de contestation. Bonjour Jade.
Bonjour. L'Iran est plongé depuis plusieurs semaines dans une situation de forte instabilité, conséquence d'un mouvement de contestation d'ampleur nationale et d'une répression sévère menée par les autorités. Les premiers rassemblements ont éclaté fin décembre à la suite d'une grave crise économique, la chute du rial, la monnaie nationale, une inflation galopante, la pénurie des produits de base et une hausse brutale des prix de l'alimentation et de l'énergie.
Et que dénoncent les manifestants ?
Alors, dans un premier temps, les manifestants dénonçaient la précarité de leur quotidien, mais très vite, la colère s'est élargie à des revendications politiques visant directement le régime et ses dirigeants. Des slogans hostiles au pouvoir ont été entendus dans de nombreuses villes, notamment Téhéran, Ispahan, Shiraz ou encore dans les provinces kurdes et baloutches.
Quelle a été la réaction des autorités iraniennes ?
Alors face à cette mobilisation, les autorités ont répondu par une répression massive. Les forces de sécurité, soit la police et les gardiens de la révolution et milices, ont été déployées en nombre. Selon plusieurs témoignages, des tirs à balles réelles, des arrestations arbitraires et des passages à tabac ont eu lieu lors des dispersions de foule. Les hôpitaux ont rapidement été saturés, tandis que de nombreuses familles affirment ne plus avoir de nouvelles de leurs proches arrêtés. Pour empêcher la circulation des images et des informations, le régime a instauré une coupure quasi totale d'Internet, plongeant le pays dans un isolement numérique. Les rares vidéos diffusées à l'étranger montrent des scènes de chaos, des rues désertées, des commerces fermés, des bâtiments publics incendiés et des véhicules de sécurité endommagés.
On imagine que le bilan humain doit être lourd. A-t-on une idée du nombre de victimes ?
Le bilan humain reste difficile à établir. Les autorités reconnaissent 3117 morts, incluant des membres des forces de l'ordre Mais des organisations de défense des droits humains avancent des chiffres plus élevés, avec au moins 3428 morts. Des milliers de personnes auraient été arrêtées, parmi lesquelles des étudiants, des journalistes et de simples passants. Des ONG dénoncent également des mauvais traitements en détention, évoquant des cas de torture et de violences psychologiques.
Comment réagit la communauté internationale à ces violences ?
Sur le plan international, la situation suscite une vive inquiétude. Plusieurs pays occidentaux ont condamné la répression et annoncé des sanctions ciblées contre les responsables iraniens. Les Nations Unies appellent de leur côté à une enquête indépendante, tandis que Téhéran rejette toute ingérence étrangère, accusant des puissances extérieures d'alimenter les troubles.
Aujourd'hui, 2 février, quelle est la situation en Iran ?
Aujourd'hui, si les manifestants se font plus rares, la tension reste palpable dans l'ensemble du pays. Les écoles et universités fonctionnent au ralenti, l'économie est paralysée et la peur domine dans la population. Pour de nombreux Iraniens, cette crise marque un tournant majeur, révélateur d'un fossé grandissant entre le pouvoir et la société civile.
Merci Jade. Nous partons maintenant vers l'autre bout du monde, au Groenland avec Lubin.
Bonjour à toutes et à tous. C'est durant ces dernières semaines que Donald Trump relance un débat géopolitique majeur en affirmant avec force que les États-Unis doivent acquérir le Groenland. Pour Trump, cette île n'est pas seulement une option stratégique, mais une nécessité pour la sécurité nationale américaine, notamment face aux ambitions croissantes de la Russie et de la Chine dans l'Arctique, région de plus en plus accessible à cause du réchauffement climatique et riche en ressources naturelles comme les minéraux rares et les hydrocarbures. Le gouvernement groenlandais a rejeté les déclarations récentes des États-Unis face à leur appropriation du territoire, en indiquant que l'île n'est pas à vendre et que la population souhaite rester liée au Danemark. Cependant, Trump n'a pas l'air d'accepter cette opposition. En effet, il publie régulièrement des images générées par l'intelligence artificielle pour montrer sa suprématie. Comme la fois où il est représenté assis dans le bureau ovale, à côté d'une carte où le drapeau américain recouvre le Canada, le Groenland et le Venezuela. Ou encore une image où on peut voir le président américain marcher vers le Groenland en compagnie d'un manchot tenant dans sa patte le drapeau américain. Pour l'anecdote, les manchots les plus proches du Groenland vivent à plus de 12 000 km. Comme quoi, il faut toujours vérifier ses sources.
Merci. Retour en Europe et plus précisément en Suisse où Lubin va nous rappeler un fait divers tragique survenu dans une station UB de sports d'hiver.
C'est durant la nuit du 1er janvier 2026 qu'un incendie dévastateur s'est déclaré dans un bar très fréquenté de la station de ski de Crans Montana, le Constellation, alors que des centaines de fêtards étaient présents. Le bilan humain est lourd. Au moins 40 personnes ont perdu la vie et plus d'une centaine ont été blessées. Parmi les victimes, on recense un nombre important de jeunes fêtards suisses, mais aussi italiens, roumains, turcs et même français. Les premiers éléments de l'enquête indiquent que le feu pourrait avoir été déclenché par des cierges magiques ou des sparkler candles fixés sur des bouteilles de champagne, dont les étincelles auraient enflammé le plafond isolant du bar, provoquant une propagation très rapide des flammes. Les autorités suisses ont ouvert une instruction pénale pour homicide involontaire et ont placé en examen les 2 gérants de l'établissement pour négligence dans la gestion de la sécurité. En effet, grâce à des vidéos prises au moment du désastre, on peut observer des plaques anti-bruit au plafond qui sont extrêmement inflammables. De plus, on constate un manque de sortie de secours, ce qui a eu pour effet d'accentuer l'effet de panique générale et d'augmenter le nombre de victimes. En signe de respect pour les victimes, le président helvétique Guy Parmelin a annoncé une journée de deuil national le 9 janvier dernier, tandis que des cérémonies et hommages sont organisés dans la région et dans le reste du pays. C'est donc l'un des pires sinistres civils qu'ait connu la Suisse ces dernières années, et les autorités affirment que l'enquête se poursuivra afin de dévoiler toutes les circonstances de cette tragédie.
Nathan, vous nous parlez de sport, plus précisément de football et du très beau parcours des 2 équipes normandes.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, parlons de sport, mais surtout parlons de la Normandie dans cette Coupe de France de football. 2 équipes normandes ont vécu un parcours exceptionnel, en parlant notamment de l'équipe d'Avranches, évoluant en championnat de National 2, qui lors de ses 32e de finale qui se déroulait le 20 décembre 2025, ont fait l'exploit d'éliminer Brest, évoluant en première division du championnat de France. Sur une séance de pénalty, 5 buts à 4, au terme d'un match fou, un but partout, avec le carton rouge de Brest à la 21e minute de Julien Le Cardinal. Parlons aussi de Bayeux, évoluant en Régional 1, qui durant cette Coupe de France a fait de nombreux exploits, notamment au 6e tour, ayant éliminé Caen, équipe de National 1, sur le score de 3 buts à 2. Bayeux qui, lors de ses 32e de finale, affrontait ce 20 décembre Blois Football, équipe de National 2, remportant ce match sur le score de 2 buts à 1. Lors des 16e de finale, Bayeux et Avranches n'ont pas su gagner pour continuer leur incroyable aventure le week-end du 10 janvier 2026, avec Avranches perdant sur le score de 6-0 face à Strasbourg et Bayeux perdant sur le score de 9-0 contre Marseille. Deux défaites contre deux équipes de première division française. On espère que nos deux équipes normandes reviendront plus fortes l'année prochaine et on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités sport.
Merci Nathan. Noé justement nous parle de la CAN avec la finale mémorable du Sénégal-Maroc et il va nous parler du championnat du monde de fléchettes et d'un jeune prodige anglais.
Bonjour à tous. Le Sénégal est sacré dans une finale mémorable. La grande finale jouée à Rabat au stade Prince Moulay Abdellah restera dans les annales. Opposés aux autres Marocains, les Lions de la Teranga du Sénégal ont remporté le trophée après une victoire 1-0 en prolongation grâce à un but décisif de Pape Gueye à la 94e minute. Ce succès offre au Sénégal sa deuxième CAN de son histoire après leur triomphe en 2021. Mais ce ne fut pas une finale comme les autres. La fin de match a été marquée par des scènes controversées avec un pénalty accordé au Maroc dans les derniers instants du temps réglementaire. Une réaction des joueurs sénégalais quittant brièvement le terrain en protestation et une ambiance électrique dans les tribunes. Ces événements ont provoqué débats et discussions à travers tout le continent, certains dénonçant une erreur d'arbitrage, d'autres saluant la résilience sénégalaise dans un match à haute tension. Pour passer sur les fléchettes, le 3 janvier à l'Alexandra Palace, pour le championnat du monde de fléchettes, Luke Littler, surnommé The Nuke, la bombe nucléaire, ce prodige anglais a remporté la finale avec sang-froid et maturité, battant le néerlandais Jan van Veen sur un score de 7-1, confirmant qu'il est bien plus qu'un phénomène médiatique en remportant son deuxième championnat du monde et à rentrer en finale 3 fois de suite. Littler n'a qu'une chose en tête, continuer à gagner et écrire l'histoire.
Merci à tous pour ces actualités géopolitiques, politiques et sportives. Le Point Actu, c'est fini pour aujourd'hui. Les 2 heures de direct de ce matin ont été préparées et assurées par les terminales HGGSP à la présentation de Lizzie et Zélie. On se quitte pour une pause repas en musique et on se retrouve dès 14h avec le masque coutancé. Bon appétit.
Charles a dit.
Si Charles le dit, soyez tranquille, c'est vérifié.
Sur 87.7 FM et sur zantone.org. Charles a dit, en direct du lycée, Le Brun à Coutances.
Le 2 et 3 février,
de 10h à 16h.